Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Ganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez participer à cette émission en nous adressant vos réflexions et vos questions sur notre débat d'aujourd'hui. Le logiciel libre va-t-il finir par s'imposer ? La bataille du logiciel libre dure depuis bientôt 30 ans. Au départ, l'idée improbable d'un informaticien surdoué, Richard Stallman. Embauché par IBM à 17 ans, à la fin de ses études secondaires, le prodige commence à développer en 1983 un système d'exploitation libre qu'il nomme GNU. Il publie un manifeste en 1985 et la licence GNU en 1989. Richard Stallman était à Paris le 12 janvier dernier pour la sortie de la biographie qui lui est consacrée. Mais c'est en 1991 que les hostilités entre logiciels libres et logiciels propriétaires s'engagent véritablement. Cette année-là, un autre génie de l'informatique, le Finlandais Linus Torvalds, crée le système d'exploitation Linux. La concurrence avec Windows est lancée. Dès lors, deux philosophies diamétralement opposées s'affrontent. D'un côté, les logiciels dits propriétaires appartenant à des éditeurs comme Microsoft ou Apple. De l'autre, les logiciels libres comme Linux, mais également le logiciel de serveur Apache ou le navigateur Firefox. La première différence entre logiciels libres et logiciels propriétaires réside dans le prix de vente. Les premiers sont gratuits, ou presque, tandis que les seconds sont payants et coûtent parfois fort cher. Mais c'est aussi dans leur mode de création et d'évolution que les deux familles divergent. Le propriétaire est développé par le personnel, payé par les éditeurs, tandis que le libre provient du travail collaboratif et bénévole de milliers d'informaticiens à travers le monde. Un tel modèle a également engendré l'encyclopédie Wikipédia dont on connaît le succès. Pour autant, dans l'informatique elle-même, le logiciel libre ne semble pas encore en mesure de s'imposer. Microsoft règne toujours sur les systèmes d'exploitation avec Windows et sur la bureautique avec Office. Quels sont aujourd'hui les rapports de force entre logiciels propriétaires et logiciels libres ? Que manque-t-il au libre pour s'imposer ? Y parviendra-t-il un jour ? Que peut changer le libre dans notre utilisation de l'informatique ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences publiques Michel Cosnard, qui est président directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, l'INRIA. Roberto Di Cosmo est professeur d'informatique à l'Université Paris Diderot, Paris 7. Et Benoît Cibot est président de l'Association pour la promotion et la défense du logiciel libre, l'APRIL. Nous avons invité Microsoft, mais que l'entreprise n'a pas souhaité que l'un de ses représentants participe à ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos témoignages et vos questions sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com. Nous tenterons d'y répondre en direct dans la dernière partie de cette émission. Michel Cosnard, bonjour.
Bonjour.
Alors, le 1er octobre 2009, l'INRIA a annoncé l'ouverture en 2010 du Centre d'innovation et de recherche en informatique sur le logiciel libre, le CIRIL. Donc, il s'agit de répondre, je cite l'INRIA, aux défis soulevés par la croissance rapide du logiciel libre. Et le 11 janvier 2007, l'INRIA avait ouvert à Orsay un centre de recherche commun avec Microsoft. Donc, deux approches qui peuvent paraître différentes, voire opposées. Quel est un petit peu, comment vous conciliez ces deux stratégies ?
Revenons tout d'abord sur notre partenariat avec Microsoft Research. Donc, il s'agit en fait de l'entité de recherche de oui. Microsoft. Microsoft Research et notre partenariat est avec cette entité dans des domaines qui sont essentiellement liés à la qualité du logiciel, à la sécurité des logiciels ou à certaines applications du monde du logiciel. Et tous les développements qui sont faits dans le cadre de ce laboratoire sont des développements qui seront rendus disponible à la communauté. Toutes les publications n'auront aucun embargo et les logiciels seront distribués. Bien entendu, logiciel libre ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des affaires avec le logiciel. Je pense que nous y reviendrons un peu plus tard. Mais je voulais préciser ce point. En aucun cas, il n'y aura de logiciel propriétaire au sens strict du terme. En ce qui concerne le Cyril, je pense qu'il faut, et là encore l'émission le démontrera, je pense comprendre que le logiciel est devenu un objet complexe. Il n'y a plus de logiciel monolithique, très souvent sont tout un ensemble de composants. Donc c'est à la fois un enjeu pour le développement de logiciels. Donc vous parliez de milliers de développeurs, c'est toute une technologie qu'il faut mettre en place. Il y a un enjeu sur la législation sur ces logiciels, sur les standards, l'interopérabilité, sur les modèles économiques liés à ce logiciel. Le logiciel est devenu un objet de recherche. J'aimerais insister sur un dernier point, et je pense que Roberto, là encore, pourrait y revenir, c'est l'enseignement. Il faut apprendre ce que c'est qu'un logiciel. Le monde a évolué. Le logiciel est maintenant omniprésent. Cette émission ne pourrait pas avoir lieu sans logiciel. Je crois que tout ça montre à quel point il est indispensable que des instituts de recherche se mobilisent. Dernière précision, il s'agit d'un consortium. Ce consortium est ouvert à d'autres partenaires académiques. D'ores et déjà, à l'Université de Paris 6, Pierre et Marie Curie, et l'Université Paris 7, Diderot, nous rejoignent. Et la porte est ouverte à d'autres instituts de recherche.
Vous parlez toujours du Cyril.
Je parle du Cyril.
Très bien. Roberto Di Cosmo, bonjour.
Bonjour.
Donc, on vous connaît surtout, pour le grand public, je parle, depuis ce livre d'entretien avec Dominique Nora intitulé « Le hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft », qui a été publié chez Kalman Levy en 1998, déjà, il y a un certain temps.
Ouais, 10 ans, ouais.
Et donc aujourd'hui, vous allez prendre la direction de ce centre de recherche, le Cyril de l'INRIA. Et donc 12 ans après ce brûlot anti-Microsoft, qui était une certaine violence à l'époque, comment jugez-vous ce développement du logiciel libre vis-à-vis de ces logiciels propriétaires un peu incarnés par Microsoft?
Oui, d'accord. Donc, ce serait bien de ne pas rester juste borné au conflit avec Microsoft, qui ont été très intéressants. Ça m'a permis d'aiguiser un certain nombre d'argumentaires qui étaient intéressants pour tout le monde. Mais disons, la situation actuelle, si vous voulez, 12 ans après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est mon bilan, vous retrouvez du logiciel libre partout. Alors, nos auditeurs ne savent peut-être pas faire la distinction, parce que souvent, quand on utilise un téléphone, ou qu'on appelle on utilise Internet, ou on utilise un ordinateur, on ne va pas regarder dans tous les détails de ce qu'il y a derrière. Mais donc, un logiciel libre est un logiciel qui vous permet de distribuer des copies de ces logiciels qui, bon, vous semblent, de regarder comment ces logiciels sont conçus, les modifier, l'adapter à vos besoins, et de distribuer les modifications que vous avez faites aussi en large communauté. Donc ce sont les usages de ces logiciels qui les rendent libres, plus que la technologie réelle avec les effets. Donc si vous regardez aujourd'hui, la plupart des gens qui écoutent cette émission, je suis sûr qu'ils utilisent Firefox pour naviguer sur votre site
web. Peut-être pas tous, mais certains
Un grand nombre, donc ça
va à grande croissant.
Vitesse. Vous avez pas mal d'utilisateurs qui utilisent OpenOffice pour faire le traitement des textes. La plupart des gens qui vont sur Internet ou sur les sites web, ils ne les savent pas, mais lisent leur page web à travers un serveur qui s'appelle Apache, comme vous avez mentionné, qui domine les marchés. Des serveurs sur Internet. Tous ces logiciels sont libres. Alors pourquoi ça doit intéresser un utilisateur qui n'est pas informaticien de savoir qu'il s'agit d'un logiciel libre? Ça l'intéresse parce que même si lui ne peut pas regarder comment le code de ce logiciel a été fait, il sait qu'il a quand même la liberté de demander à quelqu'un d'autre qui a sa place pourra éventuellement regarder comment il est fait, garantir la qualité, les faire améliorer, les faire évoluer, contribuer à prendre en compte ses besoins. Si on passe une petite analogie, je vais y aller très vite. Mais c'est comme pour les textes des lois. Alors, je ne sais pas combien des auditeurs sont très familiers avec les codes civils, par exemple, des procédures. Oui, c'est du français. Si on se fatigue un peu, on comprend quelque chose. Mais en général, on va chercher un avocat. On n'est pas capable de se défendre tout seul en tribunal. Et pourtant, on serait très contraire à avoir un code civil fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au code civil, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on s'est remis en boîte noire qui va juste vous dire coupable, pas coupable. N'est-ce pas? On aimerait bien payer quelqu'un pour pouvoir travailler dedans.
Non, l'analogie est intéressante, effectivement.
Et donc, aujourd'hui, on retrouve du logiciel libre partout, c'est plutôt bien. Mais du coup aussi, d'une certaine façon, victime de son succès, parce qu'on le retrouve un peu partout. Le logiciel libre a grandi, a pris une énorme dimension, une énorme envergure, et donc il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent. Donc, ce sont des problèmes scientifiques, donc la complexification du logiciel, des modes de développement, et on a besoin des recherches qui supportent l'évolution et l'essor du logiciel libre. La question de former des nouveaux ingénieurs qui savent faire du logiciel libre de qualité, ce n'est pas juste la technique, mais c'est aussi comment collaborer avec d'autres développeurs et les mettre ensemble. Alors, des gens comme ça, il y en avait beaucoup, seulement c'était un de ceux-là. Torvalds, c'est quelqu'un de très connu. Mais vous savez, pas mal de ces gens ont été plus ou moins attirés, embauchés, utilisés dans des grosses entreprises qui ont besoin des compétences sur du logiciel libre. Et du coup, on a drainé ces compétences qui existaient et formé un très bon conducteur de communauté en logiciel libre, ça prend des années et des années, des dizaines d'années.
On va reparler de ce mode de fonctionnement qui est tout à fait particulier.
Et donc là-dedans, il faut aussi contribuer. Dans le cadre du CIRIN, on va réfléchir à comment adapter l'enseignement et l'éducation pour améliorer la qualité des ingénieurs qu'on va produire. Et enfin, il y a un aspect aussi économique, effectivement, on l'a mentionné. Le logiciel libre, ce n'est pas forcément un logiciel gratuit. Vous savez, un logiciel libre, par exemple, la première chose, si vous voulez un logiciel libre et qu'il n'existe pas, la seule façon, c'est soit vous les développez si vous savez faire, soit vous payez quelqu'un pour qu'il les réalise. Il y a immédiatement de l'économie derrière, mais il faut que cette économie qui se mette en place respecte un peu les principes fondamentaux du logiciel libre. Donc il faut créer, disons, des dynamiques économiques positives. Donc, ce sont toutes des questions qu'on essaye de se poser de façon un peu plus institutionnelle. Et là, d'une certaine façon, c'est un saut quantique par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire, enfin, ce type de thématiques pour lesquelles on se bat depuis plus de 10 ans, rentre par la grande porte dans des instituts de recherche, dans des réflexions majeures, et on essaie de se préparer ensemble à l'avenir, tel qu'on le verra d'ici 5 à 10 ans, sur lequel on va revenir peut-être plus tard. Merci.
Alors l'avenir, oui, on va y revenir bien sûr. Mais Benoît Cibot, bonjour.
Bonjour.
Restons sur le présent. Lors de son passage à Paris, que je mentionnais tout à l'heure, Richard Salman a rendu hommage, par exemple, à votre association, l'April, l'Association pour la promotion et la défense du logiciel libre. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui encore utiliser des termes guerriers comme défense? Est-ce que, par rapport à ce que vient de nous expliquer Roberto Di Cosmo sur ce développement important du logiciel libre, est-ce qu'on est toujours dans une situation un petit peu guerrière avec le logiciel propriétaire?
On voit un affrontement entre deux façons d'aborder la connaissance et la société de l'information. D'un côté, une approche privatrice qui fonctionne sur une économie de la rareté, où on est dans du numérique qu'on peut dupliquer à l'infini, mais on choisit de volontairement limiter le nombre de copies et de tarifer, de vendre chaque copie à l'unité. C'est le monde propriétaire. Et de l'autre côté, l'approche logiciel libre est basée sur des idées de diffusion de la connaissance, de partage de l'information, et on a des modèles économiques qui ne sont pas basés sur la rareté artificielle et sur de la vente à l'unité. Il y a des modèles économiques derrière, évidemment. Sinon, on n'aurait pas une telle variété d'acteurs dans le monde du logiciel libre. On retrouve dans les développeurs de logiciels libres, on trouve aussi bien des passionnés bénévoles que des administrations et du secteur public, que des entreprises, que des associations, que tous les types d'acteurs possibles, en fait, travaillent sur les questions de logiciels libres à différents niveaux, sur les logiciels qui les intéressent.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée des forces en présence? Est-ce qu'en part de marché, je ne sais pas comment le dire, entre le libre et le propriétaire, comment les choses se répartissent?
Ça dépend très fortement de quoi on parle.
En prenant des exemples,
la plupart des gens n'ont pas d'idée de l'omniprésence actuelle du logiciel libre.
Sur les grandes familles, le système d'exploitation, là, les choses sont peut-être plus claires parce qu'il y a moins d'alternatives. Quelle est la part aujourd'hui Windows, Linux, Apple
On est Microsoft et Apple, eux deux, sont à 95%. À peu près dans ces eaux-là, ça va dépendre des endroits de part de marché. Et c'est d'ailleurs une des problématiques. On parlait de pourquoi il y a besoin de faire la défense. La question de la vente liée se pose là directement. Comment fait-on pour trouver dans le commerce un ordinateur qui soit vendu sans système d'exploitation? Comment fait-on pour trouver un ordinateur qui affiche les licences des logiciels qui sont préinstallés dessus et que l'utilisateur est présumé accepter? Comment on fait pour trouver un ordinateur dont le prix des logiciels qui sont dessus est affiché et que l'utilisateur puisse faire appliquer la loi en France, la loi sur la vente liée, qui dit qu'on n'a pas le droit de coupler la vente d'un service, le logiciel, avec un bien, un ordinateur.
Ça, c'est quand même un vieux débat.
C'est un vieux débat et même dans l'actualité récente, il y a des résultats de procès qui tombent et on voit que la situation est en train d'évoluer petit à petit. Mais c'est aussi à la fois une bataille commerciale, on voit bien qu'il y a intérêt à éviter qu'il y ait des concurrents qui sont là dans les vitrines, un manque de volonté politique, en même temps un engagement du respect de la loi en France, voilà, et ça a des conséquences pour les consommateurs. On peut voir aussi que si le logiciel libre, on parlait du début du logiciel libre avec Richard Stallman, c'est pas tout à fait vrai. En fait, le logiciel libre date des débuts de l'informatique. On avait des gens qui partageaient tout ce qu'ils développaient, tout le logiciel qu'ils produisaient était partagé, jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un décide de fermer l'accès à ces informations et de créer le modèle propriétaire. Le modèle du logiciel libre, c'est le modèle de la science depuis 2000
ans. Tu parlais du début de la formalisation.
C'est la formalisation du logiciel libre. Et donc, si l'existence du logiciel libre est là depuis très longtemps dans les idées, on voit que maintenant, on a atteint qu'il y a du logiciel libre qui est présent partout. Le logiciel libre, il est présent aussi bien maintenant dans les satellites que dans les téléphones. Dans tous les boîtiers ADSL qu'on peut trouver en France, on va avoir du logiciel libre. On en trouve dans énormément d'équipements embarqués. On va le trouver dans les navigateurs pour aller sur Internet, dans les suites bureautiques, dans les systèmes d'exploitation. Il y a des logiciels libres dans à peu près tous les domaines, y compris la science, l'audiovisuel, etc. Dans à peu près tous les domaines, on va trouver du logiciel. Et malgré tout, il y a quand même besoin d'assurer la défense du logiciel libre contre un certain nombre d'acteurs ou du monde commercial ou au niveau législatif. Je pense à ceux qui veulent créer des verrous numériques, des menottes numériques, exclure les développeurs de logiciels libres d'un certain nombre de marchés ou d'un certain nombre de secteurs, comme l'audiovisuel par exemple. Verrouiller tous les fichiers audio et vidéo, ça exclut le logiciel libre de ce secteur-là. Le problème de la vente liée, le problème dont j'ai parlé précédemment, la problématique des brevets logiciels, le fait de dire cette idée-là maintenant, sur une chose aussi basique que le fait de cliquer deux fois ou d'avoir une barre de progression qui affiche à combien de pourcentage on est d'une tâche donnée, des gens qui déposent des brevets logiciels là-dessus freinent l'innovation de tout le secteur de l'information et de l'immatériel.
On va y revenir, Michel Cosnard. Comment vous voyez cette différence entre ces deux mondes du point de vue de la recherche, un petit peu, qui elle, a quand même ses fondations plutôt établies dans le libre.
Donc, à l'INRAE, on distribue du logiciel. Ça fait partie de notre mission. Nous avons une mission d'élaboration des connaissances, de développement de ces connaissances et de diffusion des connaissances, y compris vers le milieu industriel et vers le milieu socio-économique. Je crois que c'est plus de 500 logiciels qui sont distribués, dont à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre les deux tiers sont sous forme de logiciels libres. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une partie non négligeable de logiciels qui sont sous forme propriétaire.
Pour quelle raison ?
Pour des raisons tout à fait diverses. Souvent, ces logiciels peuvent être développés en partenariat avec des industriels. Très souvent, ces logiciels sont partis d'un dispositif. La question qui se pose et qui a été illustrée par l'intervention précédente, c'est le lien entre le logiciel et le vecteur de ce logiciel. On parle souvent de système embarqué ou de système enfoui. On n'achète plus maintenant aucun objet digne de ce nom sans qu'il y ait du logiciel à l'intérieur. Alors effectivement, il peut y avoir du logiciel libre, il peut y avoir du logiciel propriétaire. Il y a tout un continuum de logiciels. Et je crois que un des objets du Cyril plus tard, c'est de faire une certaine cartographie de ces logiciels. Le logiciel a envahi la société, a envahi l'espace. Et donc il représente la diversité des comportements humains. Et même au-delà, puisque dans l'Internet des objets, dans l'Internet des services, c'est chaque objet qui va être porteur de logiciels. La responsabilité de la société devient très forte. La responsabilité des communautés de développement, des organismes qui sont en charge de ceci devient très importante. Je ne crois pas qu'il y ait de modèle unique. Je pense que dans chaque cas, il faut adapter les bons modèles. Il y a aussi des évolutions très fortes. On parle beaucoup de systèmes d'exploitation. Mais le logiciel, c'est maintenant toute une palette de développement. Et certains doivent absolument être disponibles gratuitement, c'est la mission des organismes de recherche, hein, tout ce qui concerne les logiciels de base, les logiciels mathématiques qui permettent, les connaissances doivent être diffusées gratuitement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des entreprises qui font du bénéfice sur ces et du chiffre d'affaires sur ces de la valeur sur ces logiciels. Par contre, on peut penser que pour certains domaines, le modèle propriétaire a encore de beaux jours devant lui.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Le logiciel libre va-t-il finir par s'imposer ?» avec Michel Cosnard, président directeur général de l'INRIA, Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique à l'Université Paris Diderot, Paris 7, et Benoît Cibot, président de l'Association pour la promotion et la défense du logiciel libre, l'APRIL. Alors Roberto Di Cosmo, on est arrivé à cette distinction qui quand même doit être précisée entre libre et gratuit. Je pense que souvent, il est difficile de faire la part entre les choses et on associe intuitivement les deux, c'est-à-dire quelque chose qui est libre doit être gratuit ou l'est forcément. Alors en réalité, ce n'est pas exactement le cas.
Ah, c'est presque jamais le cas. Je vais essayer d'être un peu clair. Malheureusement, là, c'est une confusion qu'on fait souvent. Il faut essayer de l'éviter. Donc, je vais vous dire, la liberté est une propriété importante. La gratuité est une propriété qu'on connaît mieux. La gratuité est une propriété qui peut changer très vite. Donc, vous pouvez aller au supermarché. Il y a une offre sur la pâte dentifrice. Vous l'achetez, vous l'avez gratuitement. Vous êtes tout content, mais vous revenez lendemain, vous essayez de l'avoir gratuitement à nouveau. Et dommage, ils ont changé la politique commerciale. Ce n'est plus gratuit. Il faut la payer. Alors là, des logiciels qui sont gratuits au début et qui deviennent payants plus tard, on en connaît plein dans l'histoire de l'informatique.
Mais c'est encore plus, d'ailleurs, souvent que pour la pâte dentifrice, puisque il y a ces périodes d'essai qui aussi permettent de tester un logiciel.
Finalement, on nous appâte, on appâte l'échelon, mais après on passe à la caisse très souvent. Quand on parle de logiciels libres, on le répète, on parle vraiment d'autre chose. On parle de qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Est-ce qu'une fois que vous avez une copie de ce logiciel, vous pouvez l'utiliser, le diffuser, le modifier, l'adapter, diffuser les modifications. Bien évidemment, si un logiciel libre est vendu très cher, par exemple si je vends à vous une copie, la première copie de ce logiciel libre, je vous la vends à $1 million parce que vous devez les développer, vous m'avez demandé de les développer, donc je vous fais payer $1 million, vous avez cette copie-là, mais là, vous êtes libre d'en faire autant de copies que vous voulez. Donc vous pouvez peut-être trouver deux personnes qui vont l'acheter à 500 000, mais chacun va le vendre à deux personnes qui l'achètent à 250 000. Au bout d'un certain moment, ça ne va pas se vendre très cher. Donc ça risque de devenir pas trop cher, mais ce n'est pas forcément gratuit. Et quand on parle d'économie, de gratuité, moi je fais un petit peu des bonds sur ma chaise, parce que vous voyez, je ne pense pas que ça existe l'économie du gratuit. L'économie, c'est toujours une économie de la rareté. La seule chose, c'est que dans le monde de l'informatique, on nous a obnubilés pendant 30 ans avec la rareté de la seule chose qui n'est pas rare. C'est-à-dire quand vous faites faire une copie d'un logiciel qui a déjà été écrit, développé, testé, documenté, et pour lequel il y a déjà de la formation, faire une copie de cet objet-là, ça ne coûte aujourd'hui plus rien. Vous cliquez sur Internet, vous l'avez. Et pourtant, pendant 30 ans, on a fait de l'économie en disant « c'est interdit de faire une copie ». Des logiciels qui existent déjà, il faut payer. Et donc, à travers cette rareté-là, on construisait l'économie. Mais aujourd'hui, avec du logiciel libre, cette interdiction-là n'existe plus. Est-ce que pour autant, il n'y a plus d'économie du logiciel? Bien au contraire.
C'est là que c'est assez subtil, parce que quelque chose qui est, et on voit bien avec toutes les lois qui protègent la création intellectuelle, on voit bien que la notion de copie est considérée comme mortelle.
Oui, mais si vous voulez, là, on va peut-être revenir un autre jour pour discuter de la musique, parce que vous savez, j'ai des opinions assez arrêtées là-dessous et je suis désespéré de voir les choses qu'on nous propose.
Il y a des liens assez forts.
Il y a des liens assez forts.
Et on est plus habitué à cette problématique qu'à celle de l'informatique. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui, elle est d'actualité avec la DOPI et beaucoup de choses autour de la protection des droits d'auteur. Et on se dit comment un logiciel, lui, peut avoir son économie sans ces protections du droit d'auteur.
Mais je vais vous donner une réponse. Donc, vous savez, une fois qu'on enlève l'économie construite sous l'interdiction de faire une copie physique qui elle, est banale à faire, bah vous découvrez qu'en réalité, dans les mondes logiciels, il y a énormément d'autres choses qui sont rares et sous lesquelles on peut construire de l'économie. Il y a les compétences des personnes qui savent écrire un logiciel. Pas tout le monde sait le faire. Et les compétences des personnes qui peuvent l'adapter à vos besoins. Pas tout le monde sait le faire. Les compétences des personnes qui savent construire une procédure industrielle qui garantit un certain niveau de qualité. Les compétences ou l'infrastructure disponible pour développer ces logiciels. Toutes ces choses-là, malheureusement, sont rares. Les hommes capables d'écrire des logiciels sont rares. Ce n'est pas facile. On ne sait pas les faire. On ne sait pas faire une photocopie d'un bon ingénieur. Fort heureusement, sinon on n'aurait plus rien à faire, nous, dans les universités, si on savait faire une photocopie. On prend un bon étudiant, on fait une photocopie, on a fait autant qu'on veut. Non, et alors, tous ces travails-là, bien évidemment, c'est un travail qu'on connaît depuis très longtemps et qui fabrique de l'économie. Vous savez, je mentionne un cas assez précis. J'avais eu l'occasion de voir les chiffres d'une grosse entreprise propriétaire. Pour une fois, je ne veux pas vous parler de Microsoft.
Ah.
Voilà. Hein, non, c'était les cas des Oracle il y a suffisamment d'années pour que je puisse en parler.
Oracle, donc, qui vient de racheter Sun très récemment.
Bah, Oracle est un champion du logiciel propriétaire, traditionnellement, parce que les licences...
Alors que Sun n'était plus...
Était plus sur les libres.
Plus sur le libre.
Mais j'avais l'occasion de discuter avec des responsables de cette entreprise qui m'avaient montré un petit camembert. Donc, ça m'a montré la répartition de leurs bénéfices. Oui, à l'époque, je ne vais pas dévoiler laquelle, moins d'un tiers des bénéfices d'Oracle venaient de la vente des licences. Plus des deux tiers venaient de la prestation des services et de la formation, qui sont très exactement ces autres choses rares dont je vous parlais. Donc à la limite, dans les mondes logiciels libres, si vous réduisez la partie des licences à peu ou rien, il reste quand même un énorme espace économique pour tout ce qui est formation, adaptation, documentation, qualité, etc., etc., qui est l'essentiel de l'industrie informatique, disons, non grand public. Le grand public n'a pas beaucoup l'habitude de voir ça. Et là, j'aimerais bien que peut-être qu'on passe deux secondes, je vais peut-être demander à Benoît de faire ça, de faire un petit peu cette petite distinction entre les grands publics qui ne voient pas très souvent du logiciel libre et qui, des fois, a vraiment besoin d'être défendu par des associations comme l'April, qui sont là pour défendre leurs droits, même quand ils ne les connaissent pas forcément, et les mondes industriels qui ont l'habitude depuis très longtemps de cette économie liée sous les services, sous la qualité du produit fourni, et qui, lui, connaît aujourd'hui l'existence du logiciel libre et les utilise partout.
Bon, bah, la transition est tout à fait faite avec Benoît Cibot. Peut-être en précisant, donnant un exemple de ces logiciels qui peuvent être payants, pour bien formaliser ça dans nos esprits, un logiciel peut être payant et conçu, fonctionnant sur le modèle du libre. Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Linux, de certaine façon, est vendu aujourd'hui, est commercialisé, alors que c'est un logiciel libre?
Oui, il y a de nombreux distributeurs du noyau Linux et d'un grand nombre de logiciels, de dizaines de milliers de logiciels autour, qui sont vendus à des entreprises avec le service associé, avec
ce qui est vendu, c'est pas
la compatibilité matérielle, etc.
C'est tout ce qui va avec, c'est aussi peut-être l'interface, pas mal de choses qui sont autour du logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres exemples?
Pour renforcer ce que disait Roberto, il faut bien voir qu'on peut avoir des logiciels propriétaires gratuits, on a souvent des logiciels propriétaires payants, on peut avoir des logiciels libres qui sont gratuits ou d'autres qui sont payants. On peut avoir des logiciels propriétaires qui sont bons ou mauvais, de même qu'on peut avoir des logiciels libres qui sont bons ou mauvais. On peut avoir des logiciels qui respectent les libertés et qui donnent confiance. Et moi, je ne connais pas de logiciel propriétaire qui me donne une impression de confiance. Et je ne sais pas comment fonctionne un logiciel propriétaire. C'est une boîte noire. En particulier, si je suis un utilisateur final chez moi, on a un logiciel dont on ne me dit rien. On me dit, vous avez le droit de l'utiliser gratuitement, je ne vous dis pas ce qu'il fait. Comment je sais que ce logiciel n'est pas en train de stocker et de tracer toutes les actions que je fais avec? Il y a plein d'exemples de logiciels qui font ça, qui stockent toutes vos pratiques sur Internet ou les usages que vous faites d'un logiciel donné. En échange de la gratuité, il fait de la collecte d'informations. Donc sans le savoir, vous perdez un contrôle sur cet aspect-là de votre vie privée.
Alors cet aspect confiance est quand même important puisque c'est à l'inverse de ce que vous dites, on a un peu l'impression que pour les grandes entreprises, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à avoir confiance dans, dans le logiciel libre au point d'y lancer des applications critiques pour leur entreprise, des fonctions qui sont vitales. Et donc là, il semble qu'ils aient plus confiance dans un grand nom d'informatique qui va leur donner une certaine garantie à la fois sur la durée de vie du logiciel, sur sa maintenance, sur ses corrections, etc.
On est dans la même situation que précédemment où je parlais de l'omniprésence du logiciel libre. Même dans les grandes entreprises, il y a du logiciel partout et parfois sans même que le DSI s'en rende compte ou est perçu qu'il y en a vraiment partout.
Directeur des systèmes d'information.
Qu'il y ait du logiciel libre. Même quand une entreprise va facturer du service dessus ou gérer ou vendre sa solution, souvent elle va embarquer du logiciel libre à l'intérieur. De même que Internet repose massivement sur du logiciel libre, le système d'information d'une entreprise, il y a du logiciel libre dedans. Qu'il soit étiqueté comme tel ou pas.
Mais sur les choix visibles, on voit que dans une entreprise, la plupart des postes de travail fonctionnent sous Windows de façon massive. C'est ça qui est visible et utilise la suite Office.
C'est
d'ailleurs à grand coût, à grand frais, souvent, parce que là, les licences sont très, très nombreuses. Roberto Di Cosmo, justement, après, je voudrais avoir le sentiment de Michel Cosnard.
Non, je vais juste interrompre un petit peu, parce qu'effectivement, vous donnez, là, on a la tendance de donner l'impression que le logiciel libre n'est pas visible dans le monde de l'entreprise. Je vous donne quelques chiffres.
Vous savez, c'est vous qui me dites sans arrêt que le logiciel existe, mais qu'il n'est pas visible.
Ouais, je vais vous donner quelques chiffres pour être plus concret. Vous savez, les marchés de logiciels et de services en France, c'est estimé à environ 40 milliards d'euros pour l'année passée, juste en France. Logiciels et services. De ces 40 milliards d'euros, il y en a deux qui reviennent entièrement à du logiciel et services, un logiciel libre. Donc ça fait plus de 100% aujourd'hui. Et ça grandit en vitesse impressionnante. Donc vous avez énormément d'entreprises qui effectivement font confiance à ça. Je ne sais pas si c'est la peine de mentionner certaines entreprises, mais
il y a 5%.
Non, mais il y a des grands constructeurs automobiles qui ont déployé, pas du Windows, mais au contraire, des solutions Linux avec des desktops Linux intégrés sur tous leurs postes. Il y a des grandes compagnies d'assurance qui ont des dizaines de milliers de postes clients avec du OpenOffice et des solutions Linux. Alors, ces gens-là, effectivement, ils ne font pas spécialement la publicité aux vendeurs pour vous dire que chez eux, on va utiliser du OpenOffice à la place du Word, alors que normalement, il y a une entreprise qui va faire la publicité aux vendeurs pour vous dire qu'il faut utiliser un ordinateur logiciel préinstallé.
Il n'y a pas les mêmes porte-voix.
Il n'y a pas forcément les mêmes lobbies, effectivement. Il n'y a pas les mêmes lobbies, les mêmes acteurs commerciaux qui interviennent.
Michel Cosnard, comment vous ressentez-vous cette attitude des entreprises, puisque vous êtes quand même très souvent en relation avec elles pour développer du logiciel. Comment vous sentez ? Est-ce qu'il y a une évolution de l'état d'esprit des entreprises vis-à-vis de ce choix un peu stratégique entre le libre et le propriétaire ?
Je crois qu'il y a une très forte évolution. Il y a une très forte évolution des grands industriels évoluent vers des solutions pour leur propre compte, c'est-à-dire font évoluer leur base de code vers du logiciel libre. Et ceci...
Leur propre production
logicielle, leur développement logiciel.
Bon, et pour ce qui est de l'acquisition du logiciel, quand
je voudrais, si vous me permettez, je reviens d'abord sur ce point-là, parce que l'intérêt pour eux est d'avoir une base de développeurs plus large, de recruter des compétences pour les questions évoquées par Roberto de rareté. Les codes maintenant deviennent de plus en plus complexes, les faire évoluer, les maintenir, peuvent parfois se révéler plus juteux, moins coûteux pour une entreprise si...
si elle profite de la communauté plutôt que de...
Et là, c'est gagnant-gagnant, puisque, bien entendu, des développeurs en accès peuvent contribuer. Ensuite, sur l'achat de logiciels. Alors, bon, effectivement, je pense que le débat initial était sur les systèmes d'exploitation. Je crois, malheureusement, que ce débat va bientôt se terminer.
Comment ? De quelle façon ?
Par peut-être évolution des combattants ou absence de combattants. Je ne sais pas pour combien de temps on a encore des micro-ordinateurs, mais cette convergence entre l'informatique et les télécoms fait que c'est plutôt des nouvelles technologies comme l'iPhone ou les smartphones qui vont évoluer.
Mais la bataille se reproduit dans ce domaine également.
Je ne suis pas du tout spécialiste des logiciels qui sont sur ces objets, mais vous avez vu qu'il y a une très forte évolution, à la fois en termes de logiciels d'exploitation, de dispositifs. Enfin, c'est, sans le savoir, en achetant ces objets, on achète des centaines, peut-être même des milliers de logiciels libres. La question qui se pose est de savoir comment ils sont impactés et quel accès on a. C'est-à-dire, on peut avoir accès à des composants, mais est-ce qu'on a accès à l'ensemble ? Bon, typiquement, j'ai parlé de l'iPhone. Si je parle de l'iPhone, eh bien, vous n'avez pas accès à l'ensemble, alors qu'il est peuplé de...
Ça tombe mal. Vous donnez l'exemple des télécoms. Effectivement, le produit phare aujourd'hui, c'est un logiciel, c'est un système fermé, celui d'Apple.
Le système est fermé parce que l'interface est fermée. Mais les composants, et là, je passerai tout de suite le relais à Roberto, les composants, eux, peuvent être libres. La question qui se pose, c'est pendant combien de temps l'interface va-t-il rester fermée ? Est-ce que la prochaine génération n'est pas ne doit-elle pas être une génération d'interface ouverte ?
Alors, c'est une critique qu'on fait souvent, Roberto Di Cosmo, à Apple. Ça n'empêche pas de remporter de grands succès commerciaux.
Oui, parce qu'ils font des très beaux objets et parce qu'ils font très attention à la qualité des choses qu'ils vont mettre entre les mains. Mais là, c'est une stratégie particulière dont il faut un peu se méfier. Donc, comme Michel Cosnard disait bien tout à l'heure, dans l'iPhone dont on parle aujourd'hui, c'est peut-être le prototype des objets fermés, mais c'est aussi le prototype des objets fermés dans lesquels on trouve énormément de logiciels libres à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire le petit exercice, allez voir là, dans l'information générale, légale, etc., il y a une rimbambelle des licences et vous trouverez dedans la licence LGPL, vous retrouverez du code sous licence GPL, vous retrouverez du code sous licence Mac, BSD, etc. C'est incroyable. Et pourtant, comme utilisateur, donc vous voyez, comme entreprise, Apple profite énormément de la disponibilité de logiciels libres, donc il pêche dans la mer les beaux poissons qui viennent du monde logiciel libre. Mais par contre, vous, comme utilisateur, Michel Alberganti, vous essayez de modifier quelque chose sur l'iPhone. Ah, ça, c'est interdit parce que la dernière couche, très jolie, qui est mise sur les logiciels, limite votre liberté d'utiliser et de profiter de cet objet. Maintenant, avec la sortie de l'iPad, ça ne va pas s'arranger non plus. Donc, effectivement, la vraie bataille qui nous attend pour les futurs, c'est au moment où les logiciels se cachent, disparaissent, soit parce qu'ils sont enfouis sur l'interface là, soit parce qu'ils passent ailleurs, sur des clouds, comme on dit, la cloud computing dont on parle aujourd'hui, où se retrouve enfin ma liberté en tant d'utilisateur d'adapter l'objet à mes propres besoins. Et là, c'est une bataille qui, malheureusement, n'est pas purement technologique. C'est une bataille qui va être une véritable bataille des choix des sociétés dans lesquelles il faut aller. Mais en même temps, si on veut répondre à tout ça, moi, je comprends tout à fait le fait que ma fille adore avoir un téléphone qui soit joli. Donc, il faudra qu'on produise des objets aussi jolis et tout autant libres que l'autre. Plus libre. J'ai tout autant joli que l'autre, mais libre.
Benoît Cibot, qu'est-ce qui empêche les produits utilisant du libre d'être aussi jolis que les autres ?
C'est pas lié, la beauté du produit n'est pas liée à ce qu'il contient. Par contre, ceux qui ont actuellement le plus les moyens de produire des beaux objets sont ceux qui ont profité d'une économie de la rareté qu'ils ont créée artificiellement, ils disposent de plus d'argent au départ et ils fonctionnent sur des marchés de modèles captifs, de jardins privés. On a parlé du logiciel dans le cadre des téléphones, par exemple. C'est valable aussi dans l'embarqué ou dans le monde des logiciels, des systèmes d'exploitation. En dehors de la liberté du logiciel et de l'utilisation qu'il permet, il y a des restrictions et des menottes numériques qui sont posées sur vos données. Vous allez garder des photos numériques bien plus longtemps que vous allez garder n'importe quel logiciel que vous utilisez actuellement. Il y a des chances que les photos du premier enfant, du mariage, etc., vous vouliez les garder longtemps. Ces photos, dans quel format elles seront ? Quel est le logiciel qui va les garder captifs et vous empêcher de les utiliser ? Est-ce que vous pourrez encore les relire dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, avec quel équipement, etc. Toute la problématique des données et du contrôle qu'on a sur ces données, c'est aussi ça la question du logiciel libre. C'est les 4 libertés, on utilise comme on veut, on peut regarder comment ça fonctionne, on peut modifier, etc. On peut redistribuer et on a un vrai contrôle sur ce que fait l'objet qui nous appartient. On achète un téléphone, un ordinateur, et on sait vraiment ce qui se passe dessus. On n'a pas de l'informatique déloyale qui fait n'importe quoi et qui, dont le contrôle est déporté à quelqu'un d'autre, privé ou public d'ailleurs. On n'a pas des menottes numériques qui empêchent de manipuler tel ou tel fichier audio ou vidéo, y compris les siens, sur son propre équipement. Voilà, c'est tous ces combats-là qui font qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, il y a encore besoin d'assurer la défense du logiciel libre, bien sûr.
Michel Cosnard, quand on entend Benoît Cibot, on comprend qu'il y a des aspects très stratégiques à ce développement du logiciel libre pour des usages qui peuvent être un peu critiques pour le pays même ou pour des entreprises très importantes. Donc comment aujourd'hui la demande vous est faite ? Est-ce que qui peut vous demander, par exemple, de développer du logiciel libre pour ses propres besoins. On a parlé à une époque beaucoup d'administration qui voulait, pour des raisons économiques aussi, mais pas uniquement peut-être, basculer sur le libre. Où en est-on aujourd'hui?
La demande reste encore limitée. Pour l'instant, on a peu d'entreprises ou d'institutions qui nous demandent du logiciel libre. Pour beaucoup, le logiciel libre qui est développé à l'INRIA est développé à l'initiative des chercheurs. Et c'est aussi un choix important pour un chercheur, parce que il en va du droit d'auteur, il en va de la commercialisation de ses travaux. Et donc nous accordons un soin extrême dans la diffusion des logiciels. Les questions que posait le président de l'April là sont tout à fait centrales sur les questions liées, et c'est pour ça que je parlais d'évolution de la société au début, puisque ce logiciel pénètre complètement dans la société, vont jusqu'au corps même des individus. La question de la propriété de ces données peuvent être liées à des questions de logiciels.
Voilà, il ne faut pas être naïf. On peut imaginer que des entreprises américaines, par exemple, au hasard, peuvent avoir...
Ou d'autres pays.
Ou d'autres pays dans l'avenir, peuvent avoir des intérêts stratégiques à développer des logiciels capables de pirater certaines données au profit de certains gouvernements. Et à l'inverse, un gouvernement peut avoir envie de se protéger contre cette éventualité.
Absolument. Protéger ses citoyens.
Bien sûr.
La question...
Alors, fait-on en France dans ce domaine pour trouver des solutions à ces questions?
C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons créer le CIRIL. Ce domaine devient un objet de recherche. Et dans le CIRIL, il ne faut pas croire qu'il n'y aura que des technologues. Il ne s'agit pas de n'avoir que des informaticiens. Et c'est un problème de société, je l'ai dit. Donc il faut aussi des experts dans le domaine du droit, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la sociologie. Comprendre l'évolution de la société, l'évolution de ses besoins et le lien avec ses aspects technologiques. Le sujet est complexe. L'objet lui-même est complexe, il a une certaine forme d'universalité. Pour beaucoup d'applications dont on a parlé là, la réponse, ça peut être avoir accès au code, donc au programme, dans un langage compréhensible. La question du code civil qu'évoquait l'analogie avec le code civil. Mais dans certains cas, ça peut être un danger, l'accès à ce code source, lorsque le code lui-même est au cœur d'un système vital. Et qu'une modification, parce que le monde n'est pas fait que de personnes gentilles, conduite soit par un État, soit par une bande de malfaiteurs, peut avoir accès à des fonctions vitales. On l'a vu dans beaucoup de cas, donc le lien avec la sécurité est important.
Écoutez Sciences Publiques sur France Culture et nous débattons aujourd'hui de la question « Le logiciel libre va-t-il finir par s'imposer ?» avec Michel Cosnard, président et directeur général de l'INRIA, Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique à l'Université Paris Diderot et Benoît Cibot, président de l'Association pour la promotion et la défense du logiciel libre, l'April. Alors justement, une question qui rejoint la question des codes, de l'accès aux codes que mentionnait Michel Cosnard tout de suite. Une question de Loïc de Lyon qui nous dit « Comment les éditeurs de logiciels privateurs, nous dit-il, donc j'imagine qu'il veut dire les logiciels propriétaires, peuvent-ils revendiquer l'exercice du droit d'auteur alors qu'ils ne publient pas leurs codes et donc qu'ils ne se soumettent pas au contrôle du plagiat ?» Ce qui effectivement peut être une question, Roberto Di Cosmo.
Ouh là là, est-ce qu'on va rentrer dans les détails de tout ce qu'il faut raconter là? Oui, c'est une question assez amusante. Mais si vous voulez, les droits d'auteur a été détourné. Rappelons-nous. Donc à l'origine, les logiciels étaient vraiment libres partout dans l'histoire de l'informatique. Ça a commencé à être refermé et propriétarisé vers la fin des années 70. En appliquant au logiciel un droit d'auteur qui normalement est fait pour les livres. Alors un livre et un code, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, vous voyez, pour lire une page des textes dans un livre, on peut passer 5 minutes, on comprend assez bien, sauf si c'est du Proust. Hein.
Mais, c'est un jugement personnel.
Mais par contre, lire une page des codes, là, je peux vous garantir, c'est tout un autre exercice, beaucoup plus compliqué. Donc, ils ont appliqué là-dedans ces droits d'auteur. Et après, on a commencé à ajouter tout un tas d'exceptions aux droits d'auteur des livres qui ne sont pas tout à fait pertinentes pour le logiciel. Donc, aujourd'hui, oui, on peut effectivement appliquer des droits d'auteur à des logiciels dont on ne dévoile pas les codes. Parce qu'en cas de plagiat, si ça arrive, si je considère que quelqu'un a copié mon code source, que je ne vous montre pas. Et lui, il ne me le montre pas non plus.
On peut le voir quoi ? Par l'effet de ce code uniquement ?
On peut voir l'interface qui fait à peu près la même chose. On soupçonne que c'est exactement le même code. Dans ces cas-là, on va devant un juge et les juges ont le pouvoir d'ordonner qu'on dévoile le code à un expert qui va comparer les deux. Donc lui, il aura les deux codes sources, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que dans les mondes du logiciel libre, on fait assez régulièrement, de découvrir quand il y a des entreprises indélicates qui profitent de la disponibilité du code source dans les mondes du logiciel libre, qui embarque dans du logiciel propriétaire. Des fois, ces choses sont tellement mal faites que ça se voit. C'est juste à l'utilisation, c'est la même interface graphique, c'est la même signature numérique ou des choses comme ça. On passe devant un tribunal et on les oblige à reverser leurs modifications dans les cas du libre. Si tu te rappelles, Benoît, les cas du lecteur de DVD KISS qui était sur les marchés il y a quelques années. Ils avaient pris tous les codes d'un player à l'intérieur, donc on a pu les retrouver et les obliger à les rendre publics.
Alors on voit que ces problèmes de plagiat ne concernent pas d'ailleurs que des entreprises du libre ou des entreprises entre le libre et le monde des propriétaires.
Ça, on les trouve partout. Hein.
Ça concerne tout le monde et même Microsoft, donc défenseur très très fort de cette.
Des sacs propriétés intellectuelles, vous voulez dire, mais pas des sacs des autres.
De l'économie et du propriétaire se retrouve piégé parfois, puisqu'il vient d'être condamné vis-à-vis d'une entreprise canadienne, Hikari, à régler, je crois, 290 millions de dollars pour avoir violé des brevets qui appartenaient à cette entreprise canadienne. Ce sont des aventures qui sont assez courantes dans le monde du propriétaire, justement.
Oui, ben là, vous nous donnez l'occasion.
Ça prouve qu'on arrive à faire la preuve de violation, au moins de brevets. Là, ce n'est pas forcément
du plagiat. Mais faire la preuve d'une violation des brevets est paradoxalement plus facile que la violation des
droits d'auteur.
Des droits d'auteur. Parce que des brevets, normalement, ils posent une limitation d'usage selon certaines techniques ou idées. Et après, les détails de comment cette technique ou idée est mise en œuvre ne sont pas importants. Donc, par exemple, les fameux brevets d'Amazon One Click Buy, dans lesquels vous cliquez une fois et vous avez déjà acheté. Peu importe de savoir si les codes après sont écrits en Java, en C, en C++, en JavaScript, etc. Il suffit de voir si ça fonctionne comme ça, c'est couvert par les brevets, donc c'est une violation. Mais ça nous amène sur un terrain dangereux parce que, si vous savez, les brevets logiciels sont les plus grands ennemis aujourd'hui, parmi les plus grands ennemis aujourd'hui du logiciel libre en général, mais moi je dirais, et Microsoft en fait les frais aujourd'hui, du logiciel, même pas libre en général. Parce qu'il est trop facile de mettre des verrous ou des brevets sur des techniques informatiques qui sont d'usage assez commun. D'ailleurs, la raison pour laquelle ils se sont fait épingler chez Microsoft, c'est une technique qui n'est pas, ne mérite pas les prix Nobel. Hein. Mais il est facile de mettre ces verrous-là, alors qu'il est très difficile. Les vraies fortes technologies, c'est quand vous mettez ça en œuvre dans du logiciel, dans du code, vous les qualifiez, etc. Donc l'économie devrait se faire dans le monde du logiciel sur les compétences des gens qui développent du code, qui font du service avec, et non pas sur l'habilité de certains cabinets d'avocats, des brevetés l'eau chaude, si vous voulez.
Alors, justement, Bruna Cibo, sur cette brevetabilité du logiciel, la bataille fait encore rage aujourd'hui. Elle n'est pas totalement gagnée, semble-t-il, malgré des épisodes à Bruxelles qui ont été plutôt en faveur du logiciel libre ces derniers temps. Mais il y a toujours ce risque que, finalement, le logiciel devienne plus facilement brevetable. Il l'est déjà aux États-Unis. Et que finalement l'innovation s'en trouve très contrainte.
Alors c'est un affrontement au niveau mondial, puisque ça va dépendre des juridictions, l'existence ou non, l'acceptation des brevets logiciels dans les juridictions. Donc ça va être différent aux États-Unis, du Japon, de l'Europe, etc. En Europe, en 2005, il y a eu le rejet de la directive sur la brevetabilité du logiciel. Et depuis, les promoteurs des brevets logiciels, qui veulent donc verrouiller les idées au niveau de l'immatériel et de la connaissance, essayent toutes les autres portes possibles, et essayent les portes, j'allais dire des portes dérobées, à côté pour réussir à placer cette idée-là. Et donc s'ils n'y arrivent pas en passant devant le Parlement, ils essaieront de le passer à un autre niveau, d'essayer de le passer en traité international, ils vont essayer de créer un brevet au niveau européen qui va incorporer les logiciels, ils vont essayer tout un tas de techniques, jusqu'à en espérant obtenir ce qu'ils souhaitent. D'un autre côté, on voit qu'aux États-Unis, où il y a déjà la brevetabilité du logiciel, il y a maintenant eu des arrêts assez marquants sur le sujet, disant qu'on ne peut pas breveter tout et n'importe quoi, en l'occurrence sur une méthode commerciale dont un brevet était invalidé.
Oui, alors c'est un grand débat sur la différence entre un brevet et une idée, et la brevetabilité des idées étant quelque chose qui pourrait poser problème. Michel Cosnard, comment vous le voyez au sein d'un centre de recherche ?
Nous, notre position est qu'on ne peut pas breveter une idée. Une idée, c'est le bien de l'humanité.
Mais entre l'idée et sa mise en œuvre, souvent la frontière est délicate.
Hein. Bien sûr. C'est une source de difficulté. Rappelons-nous que le brevet a été inventé justement pour protéger la diffusion. Hein. Avant le brevet, les industriels cachaient les industriels ou les artisans cachaient leur méthode pour pouvoir garder leur savoir-faire. L'invention du brevet, c'est en échange d'une sécurité limitée dans le temps. Vous avez l'exclusivité de l'utilisation de ce procédé, mais pour faire progresser la société, vous devez publier le procédé en question. Il y avait c'était un échange, et quelque part, bon, alors après, il faut régler les paramètres, mais l'idée a fait progresser. Nous sommes venus maintenant le brevet devient un bien. Et donc, au lieu d'avoir un dispositif qui contribue à l'évolution des idées, on en a fait un dispositif qui va à l'encontre.
Et pour aller dans votre sens, certaines entreprises ne brevettent pas pour ne pas révéler leurs innovations.
Ou d'autres achètent des brevets sans avoir contribué en quoi que ce soit à leur élaboration. Donc cette question du brevet logiciel est très large, on parle, et donc n'est que la face émergée d'une question très très large, qui est l'évolution du concept de brevet. Et là, je crois vraiment qu'il y a un sujet important, économique, législatif, etc. Pour en revenir sur cette question du brevet et des logiciels, un des liens forts avec une des grosses difficultés du logiciel, hein, c'est d'arriver à prouver que le logiciel fait ce qu'il est censé faire. Et ça, c'est une question qui est une question extrêmement difficile, qui est encore un très grand sujet de recherche. Et je pense que pour la raison du fait qu'on a dévoyé complètement l'idée de brevet, et deuxièmement, l'incapacité qu'on a à prouver son fait, le brevet logiciel est tout à fait inacceptable en l'état.
Alors on approche de la fin de cette émission, c'est le moment où en général on essaie de répondre à la question du titre de l'émission, qui est un exercice souvent délicat. Vous y avez quand même largement répondu, la question étant, le logiciel libre va-t-il finir par s'imposer? Et j'ai envie de la préciser en vous demandant peut-être à quelle échéance vous voyez cette possibilité, Roberto Di Cosmo.
Si vous voulez, non, je me permets à nouveau de séparer en deux parties ma réponse. Hein, donc.
Si ce sont des parties courtes, oui, très pas court. De problème.
Dans les mondes industriels, c'est déjà en train d'arriver. C'est-à-dire, vous trouvez du logiciel libre partout et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Donc là, les vrais débats, c'est savoir... Moi, ce que je vois, c'est dans 5 à 10 ans, il y a un impact majeur sur la façon de développer les logiciels à niveau industriel. Et il faut développer des technologies, des connaissances et des compétences nouvelles. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose comme le Cyril qui est stratégique. Aujourd'hui, c'est important. Ça démarre en France et ça ne va pas s'arrêter là. De l'autre côté, il y a la question du grand public. C'est à quel moment le grand public va enfin pouvoir dire « Je rentre à la FNAC, je trouve un très bel ordinateur dont je suis absolument passionné, c'est ravi. » Et au moment où je sors à la caisse, je vais dire « Parmi tous les logiciels dont on m'a parlé, j'aimerais bien avoir ces bouts de systèmes d'exploitation-là, ces lecteurs multimédia-ci, celui-ci, etc. » Et je vais aussi avoir les services de qualité qui me garantissent que tout ceci est installé correctement. Je passe à la caisse et quand je passe à la caisse, je sors, il y a exactement ce que je veux sur l'ordinateur. Okay. Quand est-ce que tout ceci va arriver ?
C'est la question.
Techniquement, il n'y a aucune difficulté. Commercialement, politiquement, en termes de lobby, il y a énormément de difficultés parce que, bien évidemment, les acteurs de la fausse rareté d'avant, ils ont beaucoup à perdre alors que le public a beaucoup à gagner.
Benoît Cibot. On essaie d'être plus concis.
On l'a dit, on en trouve déjà partout.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ?
Il reste quatre points bloquants, qui sont les brevets logiciels, les DRM, les menottes numériques, l'informatique déloyale, qui contrôle ce qui se fait sur une machine, et la vente liée. Et ça se règle notamment au niveau législatif. Ce n'est pas un hasard si on a une campagne comme candidat.fr et qu'on a un pacte du logiciel libre qui est signé par 34 députés européens dans 7 pays et 76 députés français. C'est à ce niveau-là que les choses vont évoluer.
Et Michel Cosnard.
Je pense que le logiciel libre va se développer, va accroître ses parts de marché et que dans le même temps, ce marché va continuer à croître et qu'on va avoir des formes diverses de logiciels. Je pense qu'il serait important qu'au niveau éducatif, on comprenne mieux en France ce que c'est qu'un logiciel pour mieux comprendre tous ces débats et cette extrême diversité du monde qui nous attend. Une chose est sûre, la complexité va continuer à gagner du terrain.
Alors le Cyril peut être une réponse.
Le Cyril est une réponse de la recherche.
Quand va-t-il entrer en fonction ?
Dans 6 mois, il sera en fonction.
Bien, notre débat d'aujourd'hui s'achève. Merci à nos invités Michel Cosnard, Roberto Di Cosmo et Benoît Cibot. Je vous rappelle que sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver comme d'habitude les références de sites internet et d'ouvrages qui concernent le logiciel libre, en particulier l'ouvrage de Roberto Di Cosmo, écrit avec Dominique Nora, intitulé « Le hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft », publié chez Kalman Levy en 1998. La biographie de Richard Stallman, elle, vient de paraître le 21 janvier sous le titre « Richard Stallman et la révolution du logiciel libre », une biographie autorisée. Elle est écrite par Sam Williams et publiée par Erol. À noter également les prochaines rencontres mondiales du logiciel libre qui se tiendront à Bordeaux du 6 au 11 juillet 2010. La semaine prochaine, vendredi 5 février, notre émission mensuelle en partenariat avec Science et Avenir sera consacrée à l'évolution du cerveau en fonction de l'âge. Vous pouvez déjà trouver le magazine en kiosque et nous débattrons de ce sujet avec Jean-Pierre Bourgeois, André Delacourte, Olivier Fan et Dominique Leglu de Science et Avenir. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Julie Béressi, avec Claude Courteau à la technique. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h, l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges. Pour l'instant, il sera très bientôt 15h. Nous vous laissons en compagnie de Jeanne-Martine Vacher pour les Vendredis de la Musique. Merci à tous et à la semaine prochaine.